Louise et Joseph Alarcon. Auteur Michel Alarcon. Autobiographie familiale, réédition 2019. Titre, À l'ombre de l'oubli. Ce livre est un hommage à mes parents qui élevèrent 10 enfants sans ne jamais maudire la misère de leur sort. Je trace sur le papier de cette petite brochure le passé de mon enfance auprès de mes parents, afin de vous parler du bonheur que nous connûmes mes sœurs, mes frères et moi-même, cela malgré les misères d'après-guerre. Maman avait quitté Malaga en Espagne en 1930 à l'âge de 11 ans avec sa sœur Marie, son frère Raphaël et sa mère Antonia Bravo qui avait perdu son mari, Raphaël Conejo, décédé à l'âge de 22 ans. Ils avaient quitté l'Espagne pour regagner Oran en Algérie, un pays à l'époque sous domination française. Mon père Joseph naquit dans ce pays où son propre grand-père avait été soldat de l'armée française qui en 1830 avait colonisé l'Algérie, puis vint la guerre 14-18. Mon grand-père Jean Alarcon vivait alors à Oran en Algérie française. Afin de défendre son pays la France, il s'engagea à l'âge de 17 ans dans les bataillons qui se battaient sur Verdun. Dans les tranchées il subit le gaz moutarde, le corps à moitié déchiqueté par les combats, il resta aveugle jusqu'à son décès en 1962. La guerre revient en 1939, Joseph Alarcon, mon père s'engagea dans les bataillons du 3e Rami des Zouaves, il débarqua en Provence pour rejoindre l'armée du général de Lattre de Tassigny jusqu'en Allemagne. Michel, je suis né à Oran en juillet 1947, mes premiers souvenirs remontent à la misère noire d'après-guerre. Nous vivions à Oran en Algérie française, dans une petite pièce d'une surface d'environ 30 mètres avec un vieil évier blanc émaillé, écorché par l'usage du temps. Dans un gros broc, louis aussi de fer blanc, il y avait l'eau pour boire, cette eau était précieuse, car il fallait à mes parents l'acheter au marchand d'eau qui passait tous les matins avec sa charrette de bois. Une charrette tirée par un vieil âne, sur laquelle il y avait un très gros bidon d'eau qu'un arabe vendait aux habitants du quartier. L'arabe se prénommait Pilili. Tous les jours ce fut pour nous un vrai spectacle de retrouver Pilili, qui nous amusait avec son âne aussi têtu que Louis. Un souvenir amusant et inoubliable. Au sol, un gros matelas recouvert d'une couverture de fortune faite de rapiessage de chiffon sur lequel mes deux frères et moi nous dormions. Dans un coin, en contrebas du mur où s'écoulaient les moisissures de l'humidité, un petit matelas miséreux servait de couche pour mes parents. Au pied de l'unique fenêtre, il y avait toujours une cuvette de fer dans laquelle maman versait de l'alcool à brûler qu'elle allumait pour réchauffer la pièce lors des grands soirs d'hiver. Une table de récupération et un buffet peint en bleu étaient tout le mobilier de la maison. Mes jeunes parents travaillaient tous deux pour assurer le gîte et le couvert de leur petite famille. Papa partait tôt le matin à l'usine de conserve et de sardines où il passait plus de 15 heures par jour à la manutention de grosses caisses et tonneaux pour l'emballage du poisson. Durant la journée, maman allait faire du ménage chez des bourgeois, puis ensuite, le ménage à l'hôpital Saint-Michel du centre-ville d'Orange jusqu'à tard dans la soirée, cet hôpital où je suis né. Mon premier souvenir marquant remonte à cette année 1949 où mon frère Antoine et moi nous étions à l'école maternelle. Maman venait nous chercher le soir très tard après son travail à l'hôpital, je me souviens de nos pleurs, mon frère et moi, lorsque nous voyons toutes les mamans venir rechercher leur enfant, alors que nous, dans un coin au fond d'une pièce sombre, qui abritait notre peur et nos larmes, nous restions seuls abandonnés, jusqu'à ce que bien plus tard, maman apparaissait à la porte d'entrée de la classe les bras tendus vers nous. Vous ne pourrez jamais imaginer les lumières qui éclairaient nos vies d'amour et de bonheur de retrouver notre maman chérie, ce souvenir brûle très fort dans mon cœur. La famille s'était agrandie, il était arrivé au monde ma sœur Marie-Jeanne, la petite gitane comme l'appelait papa. Je me souviens encore de cette soirée mémorable, nous étions à l'approche de Noël de l'année 1950, maman et papa poussaient un vieux landau qui devait dater de l'époque de l'Empire, une carriole à quatre roues récupérée à la ferraille, à l'intérieur du landau, Marie-Jeanne, encore bébé, en mitouflé dans un linge de laine s'agitait pleine de grâce. Mon frère Antoine à l'avant du cortège et moi qui suivais à l'arrière, nous étions heureux de promener avec nos parents malgré le froid qui sévissait, lorsqu'une roue du landau s'était détachée, je n'ai plus les images dans la tête, mais maman m'a toujours raconté la scène. Papa, affolé, s'était mis à courir derrière la roue qui s'en allait dans cette rue en pente raide, afin de récupérer cette satanée roue, des moments inoubliables, lorsque l'on a connu le bonheur je crois, vous voyez les choses simples de l'existence ont une si grande importance, lorsqu'on les raconte pour redonner à l'image et au souvenir d'une vie la chaleur du bonheur. De cette année 1950 jusqu'aux quelques mois qui s'en suivirent avant notre départ pour le continent de la France, il ne me reste que le bonheur d'en débris de souvenirs heureux malgré cette misère d'après-guerre, mais aussi de la pauvreté de mes parents, Un jeune couple qui consacra leur temps à la tâche pour nous assurer le bonheur d'une soupe chaude et d'un morceau de pain. Parfois même, il y avait un fruit que maman avait marchandé à la robe du coin. Maman et papa avaient choisi de fuir cette misère. Mon père s'était alors embarqué une semaine avant nous pour rejoindre Marseille, puis regagner les Martigues où résidait Marie, la sœur de ma mère. Ainsi il put trouver un travail et nous rapatrier vers la France, notre vraie patrie, pour une vie meilleure. Nous voilà maman, mes frères, ma sœur et moi sur le quai d'embarcation du port de Rennes. Pour seul bagage, maman avait une grosse valise en carton dans laquelle elle avait mis tous ses biens de misère pour vêtir ses gosses. Le grand navire, le ville de Rennes, accosté sur la rade fumée de ses grandes cheminées. Sur le quai, ma grand-mère Antonia, la maman de ma mère, agitait son bras pour nous souhaiter un bon voyage. L'on nous avait conduits en troisième classe dans l'écale du bateau, un endroit où un tas de gens aussi miséreux que nous étaient entassés pour rejoindre aussi la France. Les deux journées de traversée en mer m'avaient paru interminables, mais le bonheur de retrouver papa en France et une nouvelle vie auprès de mes parents et ma famille m'avait rendu euphorique. Enfin, Marseille sous le soleil d'un jour nouveau nous avait accueillis, nous espérions tous une vie nouvelle moins miséreuse auprès de nos parents chéris. Papa était venu nous chercher avec une petite fourgonnette que Louis avait prêtée son nouveau patron. J'écris ces souvenirs et les images se bousculent dans ma tête, je revis avec des mots tous ces moments forts de ma vie et croyez-moi cela me fait du bien. Bien que ravi de retrouver sa sœur et ses enfants, ma tante Marie s'était tout de même inquiétée du dérangement que nous causions, maman ne cessa de me le rappeler durant de longues années. Mon frère Antoine et moi nous allions à l'école maternelle tout près de la maison de ma tante. Le matin avant de partir à l'école, pour le petit déjeuner, j'étais chargé de m'en aller chercher une grosse cruche de lait de vache chez une fermière voisine de chez ma tante. J'étais toujours effrayé de m'approcher de cette grosse bête, je me souviens, la dame qui me servait le lait me faisait goûter son bréviaire à la louche, je n'aimais pas trop ce liquide blanc encore chaud au goût de vache. Nous ne voyons que très peu notre père qui partait travailler dès l'aube aux environs de 4h du matin pour ne rentrer le soir qu'après une heure très tardive, cela du lundi matin au samedi soir. Au bout de quelques semaines, ma tante ne tolérait plus de nous héberger. Il avait fallu à mes parents trouver à nous reloger, mais le petit salaire mensuel de papa ne suffisait pas pour obtenir la location d'un petit appartement. Personne n'avait voulu s'engager à nous louer ne serait-ce qu'une petite pièce pour y vivre. Ma mère dans sa course folle au service de gens qu'il exploitait pour son travail de femme de ménage, avait trouvé une personne qui possédait une vieille bicoque à moitié délabrée à la sortie de la ville, au chemin du paradis à Martigues. En fait, le paradis ce fut papa qui nous le construisit, car cette maison n'avait ni porte ni fenêtre, un toit éventré qui laissait entrer le froid et la pluie. Chaque jour, papa rapportait avec son gros camion, des vieilles palettes et planches de bois avec lesquelles il fabriquait une porte et une fenêtre. Un vieux puits à côté de la maison nous permettait de puiser l'eau pour nos besoins. Après une restauration hâtive de la cheminée, nous pûmes nous réchauffer durant l'hiver froid qui suivit. Maman avait trouvé du travail chez Monsieur Francis Turcan, maire de la commune. Elle fut employée dans leur demeure où elle assurait le ménage de sa grande maison. Son travail était irréprochable si bien que Monsieur le maire avait décidé de lui remettre aussi la charge de l'entretien et du ménage de la mairie. Mère de famille de 9 enfants, tout au long de sa vie, jusqu'à l'âge de 70 ans, maman n'a cessé de travailler à faire des ménages chez divers gens, sans que ces derniers ne déclarèrent ma mère aux régimes sociaux, ce pourquoi durant sa vieillesse elle ne put bénéficier d'aucun avantage ni même d'une petite retraite financière qui l'aurait bien aidé à payer ses charges de la vie courante. Il ne nous fut plus possible de vivre sous le toit de cette maison ruineuse au chemin du paradis. Une habitation qui se délabrait un peu plus chaque jour au risque de s'écrouler sur notre petite famille. Fort heureusement, maman avait lié une grande amitié avec des collaborateurs de la mairie qui nous trouvèrent un logement en ville, un logement rue Victor Hugo au quartier de Lille, un quartier ancien de Martigues. Ce petit appartement était composé d'une grande pièce à vivre et une chambre dotée d'un petit fenestron. Nous fûmes heureux de ne plus faire nos selles, ses besoins journaliers, dans la colline du chemin du paradis, puisque dès lors, nous faisions nos besoins dans des tinettes, une sorte de seau à rebord où l'on faisait pipi et caca. Tous les matins, le camion de la ville chargé du vidage des tinettes nous amusait, l'on se moquait des employés qui pinçaient leur nez pour vider les tinettes dans l'orifice à l'arrière du camion. Papa commençait sa journée de travail à 5h du matin, je m'éveillais toujours à 7h du petit jour pour entendre papa tourner sa cuillère dans son bol de café noir, puis je l'entendais quitter la maison pour regagner l'entrepôt de son travail où il chargeait son gros camion de marchandises, une cargaison qu'il s'en allait livrer au bateau à quai sur le port de Marseille pour ne rentrer à la maison que très tard en début de nuit. À présent, du haut de mes 7 années, j'étais déjà un petit bonhomme, je fréquentais une école proche de chez nous, une classe de 38 élèves. Il est vrai que ma place se situait toujours au fond de la classe près du poêle de chauffage, puisque j'étais bien souvent le 34e ou bien encore le 35e élève au classement des notes, mais je ne fus jamais le dernier de la classe. L'histoire m'ennuyait, la dictée trop intellectuelle pour moi comme pour l'arithmétique trop scientifique pour ma comprenette. Par contre en géographie, sciences, rédaction et travaux manuels je me débrouillais bien. À vrai dire, je n'étais pas destiné aux grandes écoles qui auraient fait de moi un col blanc la plume en main toute la journée. Bien souvent, le dimanche matin, papa me prenait par la main pour partir à la rencontre de maman qui s'en était allée au marché faire quelques emplettes pour le repas. J'étais très fier de parcourir les rues avec mon père. Aujourd'hui, je comprends l'inquiétude de mon père. Maman était une très belle femme, avec sa fine silhouette d'andalouse aux grands yeux noirs, ses joues fardées de rose et son rouge aux lèvres qui coloraient sa bouche surmontée d'un petit point de beauté. Elle avait un charme qui ne passait pas inaperçu. Cependant, mon père avec sa petite et fine moustache, ses airs séducteurs et son sérieux d'homme responsable ne manquaient pas lui non plus de titiller la jalousie de ma mère. Enfant ingrat, je vivais dans le bonheur de mes parents qui s'aimaient, leur bonheur était mien, de la misère nous étions passés à une pauvreté commune à bien des gens de cette époque d'après-guerre, mais notre amour familial nous réunissait bien plus fort chaque jour. Maman et papa étaient très appréciés dans notre rue, notre quartier, parfois les gens venaient prendre un verre de café chez nous, il leur manquait toujours quelques morceaux de sucre, une miche de pain ou un verre d'huile pour la cuisine, maman, très généreuse savait donner à ces gens qui vivaient dans les mêmes conditions de pauvreté que les nôtres, ces petits biens réchauffaient nos cœurs. Je revois aussi les images de ce dimanche avec mes parents, mes frères, ma sœur Marie-Jeanne âgée de 3 ans ainsi que ma tante Marie, mais aussi François son mari et leurs 3 enfants. Nous courions le long du bord du grand canal, quand soudain, Yvette ma petite cousine était tombée à l'eau dans le grand canal. La peur de la noyade avait poussé immédiatement mon oncle François au secours de son enfant. Il avait plongé pour secourir sa fille mais ne sachant pas nager il se noyait à son tour. Dans cette ferveur, mon père avait plongé secourir ma cousine et empoigné mon oncle pour les sortir de l'eau. La foule de bedeaux s'était entassée sur le bord du canal pour féliciter mon père du sauvetage de ma cousine et de mon oncle. Dans la semaine qui s'était ensuivie, mon père fut convoqué à la mairie par les autres autorités où lui fut remis une médaille de bravoure pour le sauvetage de la noyade de ma cousine et de mon oncle. La presse régionale qui était un média très prisé par les Provençaux, avait fait toute une page d'éloge pour glorifier le courage de mon père, aujourd'hui encore je suis fier de la gloire de mon père. Comme beaucoup de familles à cette époque, les gens vivaient à crédit, aussi chaque fin de mois, Madame Tissot, une commerçante ambulante, une gentille dame chez qui maman faisait aussi, assez souvent, le ménage, devenue amie avec ma mère, nous rendait visite. Elle faisait du colportage avec ses trousseaux de vêtements, de linge. Elle nous faisait crédit, ce qui nous permettait d'être habillés comme les autres enfants de l'école. Aussi, lorsque maman achetait des chaussettes, chemisettes et d'autres habits, elle était obligée d'en acheter 3, pour vêtir Antoine, Guy et moi. Bien sûr il fallait aussi vêtir Marie-Jeanne encore bébé, malgré notre pauvreté nous ne paraissions pas trop miséreux. En ce temps, les ouvriers étaient payés à la semaine, je me souviens de ces samedis soirs, lorsque papa rentrait du travail avec sa petite enveloppe qu'il remettait à maman, je revois ma mère qui répartissait les quelques billets de banque, celui-ci pour payer le loyer, cet autre pour l'électricité, et le charbon, celui-ci pour les crédits puis un petit billet qu'elle remettait dans l'enveloppe pour les impôts. Enfin il ne restait toujours qu'un ou deux autres billets pour la nourriture et les frais divers, ces images du bonheur gravées dans ma mémoire me suivront jusqu'à la nuit des temps. Parfois maman disposait d'un entracte, d'une petite heure dans son travail de femme de ménage, elle venait alors nous chercher à la sortie de l'école, je la revois conversant avec d'autres mamans, je ne voyais qu'elle avec sa silhouette élancée, ses longs cheveux noirs, elle était vraiment très belle et très gentille ma mère, aussi tout le monde l'aimait. Noël approchait, bien que miséreux il ne se passait pas un Noël, sans que maman s'endette de crédit pour nous offrir des cadeaux. Près de chez nous il se trouvait la boutique de cadeaux et jouets tenue par Madame Souquet, une commerçante chez qui maman faisait aussi le ménage dans son appartement mais aussi sa boutique, elle passait des heures à relouir le mobilier et laver les vitrines du magasin, cela tous les 2 jours. Je me rappelle de ce Noël où en compagnie de maman, je m'en étais allé choisir mon cadeau. Il s'agissait d'une grue mécanique grise, ce fut un grand bonheur de posséder ce jouet, que seuls les enfants de riches pouvaient s'offrir. Mon père Noël c'était maman, elle était cette étoile qui brillait dans le ciel et qui ne s'éteindra jamais dans mon cœur. Bien que je ne fus qu'un enfant, je compris très vite pourquoi lors de ses comptes en fin de semaine, maman réservait toujours une enveloppe qu'elle appelait crédit de fin d'année. Aussi chez mes parents nous avons toujours fonctionné à crédit, mais je vous assure, oui je vous assure, personne n'est jamais venu chez nous dire à mes parents vous me devez de l'argent. Ils se sont privés de tout ce dont des gens honnêtes pouvaient prétendre. Ce fut pour le seul bonheur de leurs enfants. Je me souviens aussi des mois de disette où papa, maman travaillaient jusque très tard le soir du lundi au dimanche soir, cela afin de parvenir à nourrir leurs enfants. L'on ne se plaignait jamais de cette absence des parents, ni de ces attentes la faim au ventre, car dès l'arrivée de nos parents chéris nous n'avions plus aucune souffrance, surtout devant un potage bien chaud qui nous réchauffait. Maman était une femme très pieuse. Il y avait toujours dans un petit coin de la maison, la statuette de Saint Antoine de Padoue illuminée d'une petite veilleuse. Tout au long de sa vie, ma mère n'aura jamais cessé de prier le ciel et tous ses saints afin de nous assurer santé, protection et bonheur. Nous n'avons eu ni richesse ni fortune, mais nous avions tout le bonheur et l'amour de nos parents, des gens qui ont sacrifié les joies auxquelles ils avaient droit pour nous élever dignement et assurer notre bonheur. Au début de l'année 1956, l'avènement prôné par l'abbé Pierre en faveur du logement social pour les plus défavorisés nous apportait le bonheur de bénéficier d'un petit logement en cité d'urgence au quartier du Gré, face au cimetière boulevard Notre-Dame. Cette petite cité de 25 maisonnettes fut très vite occupée par des gens de milieu social, pour la plupart des miséreux comme nous. Maman, qui était une jeune femme très communicative, avait, en peu de temps, sympathisé avec la plupart des résidents. C'était à peine croyable, nous sortions des bas-fonds de la misère pour nous retrouver dans cette petite maison composée d'une grande pièce à vivre, une minuscule petite salle d'eau, mais aussi enfin de vraies toilettes avec un bidet et l'eau courante. Il y avait aussi une chambre où Antoine et moi nous dormions à la tête d'un grand lit composé d'un gros matelas posé à même le sol. Quant à Guy et Marie-Jeanne, ils dormaient au pied du lit. C'était enfin le bonheur de vivre sous un toit comme tout le monde. À l'arrière de la maisonnette, il y avait une petite cour avec un petit cagibi où mon père entreposait les sacs de pommes de terre. Ces patates étaient notre alimentation principale, mais il y avait aussi un petit sac de charbon pour alimenter le poêle de la maison. Hiver 1956, nous étions tous réunis. Maman était enceinte et allait accoucher d'un petit frère ou d'une petite sœur. Elle nous parlait beaucoup de ce bébé que nous allions accueillir. Cette naissance ravissait mes parents. Cet événement était miraculeux pour mes frères et ma petite sœur Marie-Jeanne qui jouait avec sa poupée en attendant l'arrivée de l'enfant qui enflait le ventre de ma mère. Depuis quelques jours, Jeannick Aimée, une jeune assistante sociale, s'occupait de nous, puisque maman était hospitalisée à la clinique d'accouchement. Jeannick Aimée était le surnom que mon père avait donné à cette jeune assistante sociale, car depuis peu mes parents avaient acheté une télévision. Nous aimions regarder le soir un feuilleton où l'actrice principale était une jeune femme elle aussi assistante sociale, une demoiselle qui se rendait à son travail en vélo Solex, et notre assistante sociale possédait elle aussi son propre vélo Solex. Voilà pourquoi nous surnommions notre assistante sociale Jeannick Aimée. Papa travaillait comme un forcené, lorsqu'il rentrait tard dans la nuit, nous étions très heureux d'avoir joué comme des fous avant de nous endormir. Cependant je ne trouvais vraiment le sommeil seulement, lorsque j'entendais mon père garer son gros camion contre la maison. Le matin, Jeannick Aimée arrivait de bonne heure pour nous vêtir, nous donner un petit déjeuner, puis devant la porte Cathy notre chienne attendait pour nous accompagner jusqu'au portail de l'école. Elle était une fidèle compagne cette chienne qui veillait sur nous. Monsieur Maubert, notre docteur de famille, avait accompagné maman et notre petit frère qui venait de naître jusqu'à la maison. Fou de joie, nous retrouvions notre maman chérie, mais aussi notre petit frère Robert en mitouflait dans ses langes de linge blanc. Cet hiver 1956 fut très froid, aussi les canaux qui traversaient notre ville de Martigues étaient glacés, si bien que des gens traversaient le grand canal à pied nous avaient étonné. Ce fut hélas cet hiver très rigoureux qui emporta mon petit frère Robert. Il mourut très tôt, cet enfant tant espéré, il n'aura vécu que quelques semaines, les images de ce grand malheur trottent encore dans mon esprit. Je me souviens de ce lever du jour où nous retrouvions ma mère en pleurs, elle hurlait sa peine, maman nous avait dit Robert est mort. Malgré notre jeune âge nous savions ce que voulait dire la mort, puisque nous habitions en face du cimetière de la ville. Il nous arrivait fréquemment de voir ces longs cortèges de gens derrière la charrette du corbillard, que tiraient de vieux chevaux. Tout était devenu noir pour nous comme ces personnes que l'on voyait à la suite du corbillard. La mort devint encore plus effrayante d'autant plus que notre petit frère s'était éteint avant même que nous ayons pu deviner son sourire. Papa et maman étaient terrassés par cette disparition subite. Ma mère, vêtue de noir pour porter le deuil de son enfant, nous aura surprotégés durant de nombreuses années à la suite de ce grand malheur. Chaque jour, aux environs de 12 heures, nous entendions le bruit du moteur du camion de papa qu'il garait contre le mur du cimetière. Ce bruit de camion résonne dans ma tête comme un événement de bonheur, car nous étions contents lorsque papa rentrait déjeuner avec nous. Malgré l'image de maman vieillissante et fatiguée de ses dernières années de vie, je revois toujours ma mère, cette jeune femme qui était très agile et pleine de vie avec son sourire s'agitant de toutes parts pour nous aimer de toute son affection, mais aussi les baisers de papa. Ours où il s'approchait de notre mère, ainsi le bonheur de maman illuminait ses yeux qui rayonnaient sur nous. Aussi toutes ces flamboyantes images sont gravées dans ma mémoire. Je ne cesse de vous parler de mémoire, de souvenirs et de moments inoubliables, mais que serait la vie sans toutes ces choses qui font le bonheur? Je vous laisse le choix d'interpréter ma question à votre propre convenance. Durant les mois d'été, papa ne prenait jamais de congé. Un autre employeur le faisait travailler, parfois, plus de 15 heures par jour sur son gros camion pour ravitailler les navires sur le port de Marseille ou bien de Nice, mais aussi de bien d'autres lieux sur les ports de la Méditerranée. Lorsqu'il revenait à la maison épuisé de ses lointaines tournées, il ramenait toujours quelques vivres ou parfois des cadeaux que lui offrait les commandants de bord des bateaux qu'il livrait à la sueur de son front sans se plaindre des charges de travail. Je me souviens encore de ces vacances scolaires, lorsque mon frère Guy et moi nous nous étions levés au petit matin vers 4 heures le pour partir avec papa dans son gros camion sur Marseille pour y transporter ses marchandises qu'il chargeait sur les gros bateaux. L'odeur du moteur, celle de toutes ces marchandises à l'arrière du camion parfume encore mes nuits de souvenirs merveilleux. Sur le port de Marseille, assis sur la banquette à l'intérieur du camion, Guy et moi nous observions papa gravir l'escalator de bois et de cordes qui le conduisait sur le navire. Je ressens encore sa peine, le dos courbé avec ses grosses caisses de bois remplies de marchandises sur ses épaules. Je crois, bien que je souffrais des efforts que mon père devait fournir pour transporter le poids de toute cette marchandise. Cette peine fut la sienne tout au long de sa vie professionnelle. Il ne se sera jamais plaint de cette croix qui lui assurait du travail pour nourrir sa famille. Je n'oublierai pas non plus cette bonté dans les yeux de mon père, lorsqu'il rentrait déjeuner à la maison vers 13 heures, après son repas, avant qu'il ne s'en aille reprendre son travail. Lorsque nous nous apprêtions à repartir à l'école, il nous faisait asseoir sur ses genoux, puis il glissait la main dans sa poche pour retirer un peu de monnaie. Ensuite il nous donnait à chacun une pièce de 2 ou 5 francs pour nous acheter un bonbon. Chez Madame Sicard, une commerçante qui avait son petit magasin de papeterie mais aussi de bonbons sur le chemin de l'école près de la grande bastide de Monsieur Turcan. J'aimais bien me hasarder autour de cette grande maison, une bastide qui était entourée d'un très vieux palmier, mais aussi de gros arbres à coins, ces fruits acides que je n'aimais vraiment pas, mais dont je prenais un grand plaisir à cueillir. La ribambelle de copains et copines qui couraient à nos côtés faisait elle aussi partie des joies de notre enfance joyeuse. Cathy semblait très heureuse de nous accompagner. Papa aimait beaucoup cette chienne qu'il avait adoptée et appelée Cathy. Depuis quelque temps, les bâtisseurs de logements HLM détruisaient tous nos champs de jeux qui entouraient notre cité pour y construire des habitats à loyer modéré. Les entreprises du bâtiment employaient de nombreux ouvriers basanés, italiens, espagnols, arabes et portugais. Mes parents ainsi que ceux de nos camarades craignaient toujours que nous soyons agressés par ces populations étrangères. Fort heureusement, il y avait Cathy, notre chienne, qui veillait sur nous et nos amis. Elle avait pris l'habitude de nous suivre jusqu'à l'école, puis nous la retrouvions devant le portail de notre école à l'heure de la sortie des classes. Nous étions très heureux de retrouver notre Cathy et sa garde vigilante. Je ne saurais jamais assez honorer la mémoire de ce petit curé, ce grand homme de cœur, l'abbé Pierre, qui nous permit de bénéficier de ce logement social dans cette cité d'urgence, un logement qui avait redonné foi au bonheur de mes parents en difficulté. Cependant, malgré nos petits moyens, nous partions chaque jour à l'école avec pour goûter pour le 4 heures, un gros morceau de pain accompagné de 2 barres de chocolat au blé ou sémois. Aussi j'étais bien content lorsqu'il s'agissait du chocolat sémois, car à l'intérieur il y avait toujours de timbres postes que je collectionnais dans un bel album bleu que maman m'avait offert. Toujours à crédit, ce fut en cette année 1956 que maman avait acheté une machine à laver le linge, une machine munie d'une manivelle pour essorer le linge. Ainsi elle ne lava plus toutes nos affaires dans cette grande cuve de fer gris, courbée sur sa vieille planche de bois à frotter. Depuis quelque temps déjà, mes parents avaient acheté une télévision, une grosse caisse de bois verni avec 3 gros boutons blancs et un tout petit écran qui faisait notre bonheur. Nous étions les seuls à posséder la télévision dans le quartier et son lointain voisinage, si bien qu'aux heures d'émission, Une foule de copains, copines, mais aussi de voisins et voisines s'empressaient de venir chez nous pour s'émerveiller devant les actualités ou les films de Zorro, Charlie Chaplin ou Laurel et Hardy. Espiègle, je trouvais le moyen de faire payer la séance de télé à mes petits camarades, je leur réclamais un franc pour m'acheter des bonbons caramel ou des pochettes de timbres pour ma collection. Maman nous avait inscrits au patronage des curés mes deux frères et moi. Chaque jeudi mais aussi les samedis, vêtus de nos habits de scout, nous nous retrouvions sous le préau de l'école de Jonquière qui faisait office pour les curés, nous y retrouvions nos copains mais aussi d'autres enfants. Les curés faisaient office de moniteurs, ils nous apprenaient les prémices de la morale et de l'instruction laïque afin de devenir des adultes éduqués. C'était le bonheur, l'insouciance, parfois nous partions en excursion dans un vieil autobus pour visiter Arles, le pont du Gard ou les marais salants de Port-Vacarais. Ainsi notre jeunesse ne fut que du bonheur, tout cela grâce au sacrifice de nos parents qui nous ont tout donné pour nous épargner la misère. Cet été de l'année 1958, avec l'épargne et les sacrifices financiers qu'avaient fait nos parents, nous pûmes, maman, Marie-Jeanne, Antoine, Guy et moi nous rendre en vacances à Orange et la mère de maman, ma grand-mère nous reçut dans sa petite maison en ville. Depuis bien longtemps, suite à la disparition de son époux, ma grand-mère vivait avec Raphaël Durand, un homme très gentil. Il était un bon cordonnier, un métier qu'il exerça jusqu'à la fin de ses jours, un gentilhomme très proche de ma grand-mère. Ce fut à cette époque que mes frères, ma sœur et moi rencontrions pour la première fois Lucien, mon demi-frère, un garçon issu d'un premier mariage de ma mère qui, durant la dernière guerre mondiale, perdit son premier mari, je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Toujours est-il que nous découvrions avec une grande émotion ce frère dont j'avais souvent entendu parler. Mon Dieu qu'il était grand, c'était bien mon grand frère comme nous l'avait dit papa et maman, papa avait adopté dans son cœur ce grand-fils. Lucien mon grand frère avait un ami nommé Camus, tous deux étaient déjà des jeunes hommes, je les admirais avec leur hardiesse et leurs idées d'hommes. Lorsque je les approchais un peu trop de près ils me chassaient comme un gamin, je me souviens de cette frustration, lorsqu'ils me repoussaient, je voulais tant leur ressembler être à leur côté et être moi aussi un homme. Allez l'enfant, passe ton chemin, pensait-il sans doute, lorsque je les approchais de trop près. Après ces quelques jours de vacances, nous ne revîmes notre grand frère que l'année suivante, car pour des raisons familiales et financières, il était inconcevable que Lucien rentre avec nous en France. L'été suivant, sous un ciel ensoleillé, mon frère Lucien était venu passer à son tour ses vacances scolaires avec nous au Martigues. Il me restait de très bons souvenirs de nos vacances à Oran mais aussi de notre tonton Raphaël Durand comme nous l'appelions, car au cours de ses vacances à Oran, je me rendais très souvent dans sa petite boutique de cordonnerie. Je passais la plupart de mon temps derrière l'établi à toucher à tous ses outils, aussi j'aimais beaucoup retrouver cette odeur du cuir et du vernis qui embaumait la boutique. Tonton Raphaël coupait toujours un vieux bout de cuir qu'il me donnait avec des petits clous, un marteau et un bout de bois, pour que je m'occupe. Tout se passait bien avec tonton jusqu'au jour où il dut s'absenter quelques minutes, pareil à un vilain garnement, j'avais fouillé dans tous les tiroirs de sa boutique, je trouvais une boîte rouge en fer blanc qui contenait ses tampons en caoutchouc, des numéros qui lui servaient à marquer sous les semelles, les chaussures qu'il réparait. Vite fait bien fait j'avais mis dans ma grande poche la petite boîte rouge des tampons pour jouer à l'imprimeur. Ce fut à partir de ce jour que mon oncle Raphaël me refusa de remettre les pieds dans sa boutique. Avait-il compris que j'étais le voleur de son outil de marquage, je n'en ai jamais rien su. À Oran, la chaleur de l'été était étouffante, dès le petit matin ma grand-mère s'en allait elle aussi accomplir quelques heures de ménage chez des bourgeois au centre-ville d'Oran, puis maman nous préparait le déjeuner, elle nous faisait la toilette dans un grand baquet en bois, puis elle nous aidait à nous habiller, ensuite elle se chargeait du ménage de la maison, du repas et des affaires quotidiennes à toutes les mères de famille, ensuite à son tour, elle partait faire du ménage chez les gens pour quelques dizaines de francs. Je revois encore dans le fond de ma mémoire, cet après-midi où maman s'était vêtue de sa belle robe, bien coiffée, bien fardée pour aller en ville à l'hôpital Saint-Michel pour y retrouver d'anciennes camarades, un établissement où elle avait travaillé, lorsque nous vivions à Oran. Le centre-ville avec ses grands immeubles blancs haussmanniens, les grands magasins, mais aussi les gens dans les rues nous semblaient féeriques. Je nous revois Guy et moi qui découvrions le tapis roulant du grand magasin prise unique. C'était magique ces escaliers qui roulaient pour nous conduire à l'étage. Nous avions ri comme des fous. Ils sont loin ces souvenirs du bonheur. Tout proche de l'hôpital dans un bel immeuble bourgeois habitait Madame Fouillou, une dame propriétaire de l'immeuble où nous logions durant l'année 1949. Il s'agissait d'une petite mansarde sans eau ni électricité. Maman en était la gardienne de ce bel immeuble qui nous abritait. Ma mère ne put s'empêcher d'aller dire bonjour à cette vieille dame. Je tiens cette information de la bouche de maman, du temps où elle avait encore tous ses esprits et ses souvenirs bien vivants. Pendant que maman donnait le bonjour à ses vieilles connaissances dans l'immeuble, mon frère Lucien qui nous avait rejoints, alors qu'Antoine, Bi et moi nous jouions à glisser du haut du palier du second étage jusqu'à l'entresol sur la rampe en bois des escaliers, notre grand frère Lucien, bien plus malin que nous, avait voulu jouer de bravoure en chevauchant la rampe audacieusement. Il bascula mal, puis il tomba du premier étage jusqu'au bas de l'escalier. Épouvantés, mes frères et moi nous avions hurlé pour alerter tous les locataires de l'immeuble. La peur que Lucien soit mort après cette chute nous avait affolés, fort heureusement. Après une grande commotion douloureuse, Lucien avait ouvert ses yeux. Le bonheur d'être de nouveau ensemble avait dissipé notre grande frayeur. Louisa était le prénom de maman. Dans cet hôpital où j'avais retrouvé maman, tout le monde s'était pressé autour de ma mère. J'entends encore ces gens dire « Mais que tu es belle Louisa ». Je savais que maman était à mes yeux la plus belle du monde. Ces gens venaient consolider dans mon esprit mon amour pour maman. Toutes ces dames autour de maman n'étaient-elles aussi de jeunes femmes du même âge que ma mère? Si pour moi elles étaient des adultes, des vieilles femmes pour l'enfant que j'étais, il n'en reste pas moins qu'elles étaient la jeunesse en leur temps. Je n'affabule pas de mes mots pour vous conter la beauté de ma mère, car à chacune de ses rencontres avec ses anciennes connaissances j'entendais ces mots qui